E-Radio, l'invité de la rédaction, Lola Sautioyer.
La nouvelle politique agricole commune, la PAC, est entrée en vigueur le 1er janvier 2023 et aujourd'hui, l'heure est déjà à la préparation de la prochaine réforme. La proposition sur la PAC 2028-2034 est attendue pour l'automne 2025 et devrait porter sur la poursuite du verdissement de l'agriculture et la perspective de l'élargissement de l'Union européenne à l'Ukraine notamment. Aujourd'hui, on parle de cette PAC sur E-Radio avec Lydie Massard, eurodéputée du groupe des Verts au Parlement européen. Lydie Massard, merci d'être avec nous et de prendre le temps de répondre à mes questions. Nous sommes donc là pour parler de la PAC, la politique agricole commune, qui est le premier poste de dépenses de l'Union européenne, avec près de 264 milliards d'euros pour la période 2023-2027. Et la France est le pays qui en bénéficie le plus, avec 45 milliards d'euros sur cette même période. À ce titre, est-ce que d'après vous, le premier pilier de la PAC sur les aides directes aux agriculteurs est efficace et suffisant aujourd'hui ?
En fait, plus on a un nombre d'hectares important ou plus on a de bêtes, plus on est rémunéré. Nous, aujourd'hui, on dit que cette politique, elle n'est pas tenable. Pour une raison sans doute plus importante que les autres, c'est que le gros problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus assez de fermes et que les deux tiers des terres, en tout cas en France, les deux tiers des terres partent à l'agrandissement plutôt qu'à la réinstallation ou à l'installation d'agriculteurs. Et ça, c'est un vrai problème. D'ailleurs, ça devrait être l'axe principal de la fameuse LOA, loi d'orientation agricole, que le gouvernement va sortir prochainement. Et en fait, le fait de donner des aides surfaciques, ben en fait, ça encourage toujours plus l'agrandissement des fermes et donc l'utilisation de produits phytosanitaires. Nous, on demande que ce premier pilier de la PAC soit réorienté et que ce soit l'actif, c'est-à-dire le nombre de personnes qui travaillent sur la ferme, qui soit rémunéré plutôt que la surface. Ça permettrait de largement et naturellement réorienter la politique agricole en Europe.
Il y a plusieurs conditions pour que les agriculteurs puissent bénéficier des aides de la PAC. Est-ce que ces conditions sont trop strictes d'après vous ? Je pense notamment aux bonnes conditions agricoles et environnementales, les BCAE, sur la couverture des sols ou la rotation des cultures. Est-ce que toutes ces conditions environnementales sont tenables aujourd'hui, dans l'état actuel des choses pour les agriculteurs ?
En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas réorienté la PAC. Les aides, elles sont toujours surfaciques. Dans le même temps, on a fait le Green Deal, qui est très bien. Mais en fait, c'est un peu contradictoire. C'est-à-dire, dire qu'on fait un Green Deal sans réorienter la PAC, c'est difficile. Donc du coup, pour quand même dire qu'on fait des choses, on fait tout un tas d'empilements de normes qui en plus correspondent à des intérêts parfois un petit peu égoïstes des États. Et du coup, on arrive à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, où les agriculteurs disent « mais on marche sur la tête » et ils ont raison, puisqu'ils se retrouvent avec un encadrement hallucinant des choses, avec des dossiers absolument incroyables à remplir. Et tout ça, c'est pas efficace. Donc à un moment donné, il faut repenser la politique de la PAC. Il faut sortir de cette politique où on a 27 États qui, chacun, ont leur intérêt particulier, pour une politique qui soit réellement une politique européenne. C'est pour ça que nous, on est pour aller vers une politique fédérale où le pouvoir, en fait, les décisions, voilà, reviennent moins aux chefs d'État, mais plus aux citoyens et aux représentants des citoyens.
Vous parlez donc bien d'une politique fédérale. C'est votre souhait de régionaliser la PAC. Pourquoi c'est important pour vous et pour votre parti et qu'est-ce que ça pourrait changer concrètement pour les agriculteurs ?
Alors, on a un exemple très concret de ce qui s'est passé il y a quelques mois, en particulier en Bretagne. En fait, sur le second pied de la PAC, donc c'est ce qu'on appelle les aides non surfaciques, on a proposé aux agriculteurs de conventionner sur ce qu'on appelle des MAEC ou MAEC, mm-hmm. Mesures agro-environnementales climatiques. Il y a beaucoup d'agriculteurs en Bretagne qui ont voulu conventionner. Donc, en échange d'efforts écologiques, on donnait de l'argent, des subventions aux agriculteurs. Et on s'est trouvé devant un problème en Bretagne, c'est qu'il y a trop d'agriculteurs qui ont voulu faire bien. Et du coup, l'État a dit « bah non, moi je suis désolée, mais l'enveloppe n'est pas là ». Et ça, c'est proprement inadmissible. Et si demain, la PAC était régionalisée, les régions auraient le pouvoir d'adapter leur politique aux besoins des territoires. Je pense à d'autres choses. Par exemple, aujourd'hui en Corse, ça coûte 10% plus cher de produire que sur le continent, parce qu'il faut importer l'énergie, etc. Et donc, du coup, ils ne produisent que 20% de leurs besoins. Et en plus, c'est de la monoculture, c'est-à-dire de la clémentine et du vin. Et on ne se nourrit pas avec de la clémentine et du vin. En Provence, c'est encore un autre problème. En Provence, il y a un gros problème de foncier. C'est très difficile pour les agriculteurs de s'installer et de trouver des terres. Tout ça, c'est des problématiques qui sont différentes et qui doivent être réglées différemment selon les régions. Et c'est pour ça que la régionalisation de la PAC a tout son intérêt. C'est qu'on pourra adapter la politique aux besoins des territoires spécifiques.
Mais en régionalisant la PAC pour mieux répondre aux spécificités des territoires, est-ce qu'on ne perd pas un peu justement le caractère commun de cette politique agricole commune ?
En fait, la PAC, elle a deux piliers. Donc il y a le premier pilier qui sont les aides que nous, on voudrait voir à l'actif. Et ça, ce n'est pas un pilier qui change. Et ça nécessite effectivement une vraie politique européenne, voilà, moins dépendante des États. Et il y a l'autre pilier, le deuxième pilier, qui, elle, serait régionalisée. Et d'ailleurs, ça se fait déjà en Europe. En Allemagne, ce sont les Länder qui ont la mainmise sur les politiques du second pilier, la PAC. Et ça ne pose aucun problème. Enfin, voilà, ça se passe très, très bien. En France, on a fait un autre choix. L'argent passe par l'État. C'est l'État qui définit la politique et les régions ne sont que autorités de gestion. Voilà. Nous, on réclame qu'il soit inscrit dans le marbre au niveau de l'Union européenne, que c'est les régions, c'est-à-dire la meilleure échelle possible qui gère la politique agricole.
L'objectif derrière la régionalisation de la PAC que vous souhaitez, c'est quoi ? C'est d'arriver à une autonomie alimentaire de l'Europe ?
Exactement, autonomie et souveraineté alimentaire. Et là, je précise que ce mot, il a été beaucoup dévoyé ces dernières semaines. Moi, je ne vois pas l'autonomie alimentaire à l'échelle européenne. Ça doit se faire à l'échelle des territoires. Parce qu'en fait, quand on voit l'autonomie ou la souveraineté alimentaire à l'échelle d'un continent, pour le coup, on arrive à des territoires qui sont spécialisés. Et par exemple, en Bretagne, on produit sur certaines productions pour 6 fois notre population. Et est-ce que c'est vraiment la vocation de la Bretagne que de produire autant ? C'est quand même une question qu'on peut se poser. Et en plus, c'est une agriculture qui est spécialisée. Donc en fait, l'autonomie ou la souveraineté alimentaire, il faut l'avoir à l'échelle des territoires. Il faut que chaque territoire puisse avoir une agriculture variée. Et ça impose 2 choses. Ça impose de nombreuses fermes, ça impose partout, et ça impose de la polyagriculture.
Est-ce que là, dans la perspective des élections européennes de juin, et quand on voit les mobilisations des agriculteurs, que ce soit en France ou ailleurs en Europe, on peut s'attendre à un vote du monde agricole à l'extrême droite ?
C'est un danger. Il faut quand même regarder ce qu'a voté l'extrême droite ces 5 dernières années pour l'agriculture, parce qu'ils ont beau avoir aujourd'hui des discours... on va dire, je ne sais pas comment dire, mais des discours très populistes et avec des slogans pour appâter le client, je dirais. En fait, la réalité de ce qu'ils ont voté, c'est quand même qu'aujourd'hui, l'extrême droite a voté la PAC. L'extrême droite a voté un certain nombre de mesures qui, aujourd'hui, font que les agriculteurs sont dans une situation difficile. Et donc ça, il faut bien en prendre conscience. Il faut bien prendre conscience que c'est pas en se repliant sur soi-même et en étant dans une vision eurosceptique que l'affaire avancera. C'est au contraire en ayant une vraie politique européenne. Et on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine. Si demain l'Ukraine doit intégrer l'Union européenne, on devra de toute façon revoir la PAC. L'Ukraine à elle toute seule capterait plus de la moitié des fonds européens et ça, c'est pas possible. Donc on devra de toute façon revoir la PAC. Et donc ce n'est qu'avec une vraie politique européenne fédérale qu'on arrivera à quelque chose de cohérent.
Outre cette question de la révision de la PAC, est-ce qu'il y a d'autres dossiers qui vous semblent urgents à l'approche du scrutin de juin ?
Il y a 2 accords de libre-échange qui vont être votés cette semaine, un pour le Kenya et un pour le Chili. Dans ces 2 accords, encore une fois, ce qui est dénoncé, ces fameuses clauses miroirs, ces accords ne comprennent pas encore les clauses miroirs. Ce sont des accords qui vont permettre à l'agro-industrie de se développer dans des pays où ils ont une situation économique plus difficile que chez nous. Et on sait aussi que quand l'agro-industrie prend la place des peuples autochtones, ça ne va pas dans le bon sens. Et on sait que dans ces cas-là, on fait des rentrées des produits qu'on n'aurait pas pu produire en Europe. Voilà. Et ça, c'est pas admissible. Et voilà, ça fait partie des échéances immédiates. Et on verra ce que les députés européens voteront. Ils prendront leurs responsabilités.
Merci Lydie Massard. Vous êtes, je le rappelle, eurodéputée du groupe des Verts au Parlement européen. Merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions de radio.
Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.